Les mystères du Palais Royal, troisième partie, chapitre 22, Madame Clodion. L'inconnu suivit sans hésiter les indications de la vieille femme. Il fit 25 pas, il tourna à droite. Il aperçut une faible lueur qui s'échappait de l'entrebâillement d'une porte. Il poussa cette porte et se trouva dans une chambre étroite et basse, assez confortablement meublée et éclairée par une petite lampe posée sur un guéridon. La vieille femme entra dans cette pièce en même temps que son hôte. Elle était très petite, très maigre, très courbée. Son visage jauni, teinté de vermillon sur les pommettes et sillonné d'une quantité incommensurable de petites rides, avait les tons d'une pomme de rainette sur laquelle les premiers froids ont passé en y laissant leur empreinte. Il ne restait plus à la bouche une seule dent. Le nez, fortement crochu, touchait presque au menton, dont la forme caractéristique peut se peindre d'un trait par ces mots vulgaires, menton de galoche. Les yeux, qui semblaient percés à coups de vrille, clignotaient, vifs encore, entre des paupières écarlates. Somme toute, l'apparence de cette vieille était tout à la fois grotesque et sinistre. Elle ressemblait à ces portières horribles que le spirituel crayon de Daumier s'est complu si souvent à reproduire. Mais elle ressemblait aussi à ces sorcières effrayantes à qui le vieux Will Shakespeare fait crier dans les bruyères écossaises « Macbeth, Macbeth, tu seras roi !» Elle entra, nous l'avons dit, et referma la porte avec soin. L'inconnu, se trouvant seul avec elle, ôta son chapeau qu'il jeta sur un siège et laissa retomber le pan de son manteau. Son visage, parfaitement dissimulé jusque-là, apparut alors à découvert. Ainsi que l'annonçait sa tournure et sa démarche, il était jeune. À peine avait-il 30 ans. Ses traits, réguliers et accentués, avaient une expression de singulière énergie. Il était pâle, non de cette pâleur maladive qui atteste la souffrance, non de cette pâleur mate et chaude qui est l'indice d'un tempérament ardent et nerveux, mais de cette pâleur momentanée et accidentelle, indice certain d'une puissante émotion. La vieille entama l'entretien. « Mon gentilhomme, dit-elle, vous avez affaire à moi, me voici. Vous voulez me parler, j'écoute. Vous m'avez promis de l'or, j'attends. » « J'ai besoin de vous, c'est vrai, répliqua l'inconnu. Ce que j'ai promis, je le tiendrai, et plus encore. » « Fort bien, de quoi s'agit-il ? J'attends de vous un service. » « Important ? Oui. Tant mieux, vous le paierez plus cher. » « Mais d'abord, une question. » « Faites. » « Êtes-vous discrète ? » ?»«
Plus que la tombe. » »« La tombe, quelquefois, laisse échapper ses secrets. Je ne trahis jamais les miens. On me tuerait 10 fois sans m'arracher un mot de ce que je ne veux pas ou de ce que je ne dois pas dire. » « Le secret dont vous allez apprendre une partie est un secret de vie et de mort. »
La vieille fit un geste rapide en désignant sa tête. « Il sera là en bonne compagnie, » dit-elle. « J'en sais bien d'autres qui le valent. » « Vous êtes une habile accoucheuse, n'est-ce pas ?»«
On le dit. » « Vous êtes sûre de vous-même ?»«
Autant qu'on puisse l'être. » Bien des femmes ont passé par les mains de la mère Clodion. Aucune ne s'est plainte de ses façons d'agir.
« Ah ça, mais c'est donc d'un accouchement qu'il est question ?»«
Oui. J'en fais mon affaire. M'amènerez-vous la personne ?»«
Non. Alors, c'est moi qui irai la trouver. »«
Il le faut. »«
Quand ?»«
À l'instant même. »«
Où ?»«
Cela, je ne puis vous le dire. »«
Comment ?» s'écria la vieille femme. « Il faut pourtant que je le sache, ce me semble. »«
Ne m'interrogez point et écoutez-moi. »
« Je suis tout oreille. Voici les conditions du marché que je vous propose. »«
Voyons. » L'inconnu tira de dessous son manteau un demi-masque de velours noir, semblable à tous les masques du monde, à cette différence près qu'il n'y avait pas de trou percé à la place des yeux. « D'abord, vous mettrez ceci, » continua l'inconnu.
« Dans quel but ?»«
Oh mon Dieu, tout simplement dans le but de vous empêcher de voir. »
« Je comprends. Et après ?»
Après, vous me laisserez vous conduire par la main.
Dans quel endroit ?
Dans un endroit qui n'est pas fort loin d'ici,
et où nous trouverons une voiture attelée de 2 excellents chevaux. Et cette voiture nous mènera en moins d'une heure au lieu où on nous attend. La personne dont l'État réclame mes soins est-elle jeune? 20 ans à peine. D'une santé chancelante ou robuste? Pleine de sève et de vigueur. Êtes-vous certain que l'heure de la délivrance approche? Oui, les premières douleurs se sont fait sentir. Combien y a-t-il de temps de cela? 3 heures environ. Alors, il n'y aurait pas une minute à perdre. Je le crois. Hâtons-nous donc de conclure notre marché et de partir. Un mot encore. Lequel? Les traits de la vieille femme prirent une expression sinistre. Elle s'approcha de l'inconnu et lui dit d'une voix basse et sourde, comme si elle eût craint que ses paroles ne trouvassent de l'écho. « L'enfant vivra-t-il ? » ?»« Comment ? » répondit l'inconnu. « Que voulez-vous dire ?» La vieille sourit. « Vous ne me comprenez pas, » fit-elle. « Expliquez-vous. Je vous demande si l'enfant vivra, parce que dans le cas où sa naissance vous embarrasserait, il me serait possible de vous en délivrer. » L'inconnu ne put retenir un geste d'horreur. « Sur votre vie, » s'écria-t-il, « vous me répondrez de celle de cet enfant. »« Soit, » répliqua la vieille, « j'aime tout autant cela, et j'en répondrai volontiers. Sauf, bien entendu, les accidents qui peuvent survenir, auxquels je ne pourrai remédier, et dont je prétends n'être nullement responsable. Pourvu que vous ne négligiez aucune des ressources de votre art pour sauver la mère et l'enfant, je n'en exigerai pas davantage. Soyez tranquille, vous serez content. Maintenant, terminons. Que demandez-vous? Je vous crois généreux, mon gentilhomme. Fixez vous-même le prix du service que je vais vous rendre. » L'inconnu fit apparaître de nouveau la bourse de soie rouge à laquelle nous avons déjà vu jouer un rôle. Il la tendit à la vieille femme. « Tenez, » lui dit-il en même temps, « il y a là-dedans 50 louis. » Madame Clodion fit une révérence qui témoignait de sa profonde gratitude. L'inconnu poursuivit. « Je doublerai cette somme, aussitôt après l'accouchement, si j'acquiers la conviction que vous n'avez en effet rien négligé pour me satisfaire. » « Oh oh !» s'écria la vieille au comble de la joie. « Vous serez content, mon gentilhomme. Vous serez content, je vous le jure. » Chapitre 23. Le carrosse. « Maintenant, reprit l'inconnu, partons. »« À l'instant, » répondit la vieille. « N'oubliez rien de ce qui peut vous être nécessaire. » Je prends mes instruments et je suis à vous. » Madame Clodion ouvrit une armoire. Elle en tira une trousse très complète de ses outils de chirurgie, ou plutôt de torture, que notre époque a perfectionnés et qui ressemblaient alors à l'arsenal du bourreau. Elle les enveloppa dans un morceau de serge verte qu'elle assujettit solidement avec des bandelettes. « Me voici prête, » dit-elle ensuite. « Mettez le masque, » fit l'inconnu. « Pas encore. Il faut que je voie clair pour fermer la porte de ma maison. » « C'est juste. Aussitôt que nous serons dans la rue, je ferai ce qui vous plaira. Quoique ma discrétion bien connue rende vraiment cette précaution inutile. » L'inconnu ne répondit pas. « Allons, » reprit Madame Clodion. « Venez. » Et elle quitta avec le jeune homme la chambre, puis la maison. Aussitôt que tous les deux eurent franchi le seuil et que la vieille femme eut fait tourner la clé dans la serrure massive, l'inconnu lui tendit le masque. Elle le prit sans hésiter et l'attacha sur son visage. L'inconnu s'assura que les cordons en étaient solidement noués par derrière. Ensuite, il s'empara de la main de sa compagne et il l'entraîna rapidement vers l'une des extrémités de la rue Ribaud. Il était en ce moment à peu près 1 heure du matin. Après avoir marché pendant 20 minutes et traversé tout un dédale de petites ruelles complètement désertes, l'inconnu s'arrêta et dit à Madame Clodion, essoufflée. « La première partie de votre tâche est accomplie. Nous allons monter en voiture. » En effet, un carrosse stationnait à l'angle de l'une des ruelles dont nous venons de parler. Ce carrosse était attelé de 2 chevaux noirs. Un cocher sans livrée se tenait sur le siège, muet et attentif. L'inconnu ouvrit la portière. Il prit à bras le corps Madame Clodion et la porta dans l'intérieur de la voiture. « Au galop ! » cria-t-il ensuite au cocher. « Au galop ! Au galop ! Crève tes chevaux s'il le faut, et sois arrivé dans 1 heure !» « Oui, monsieur le comte, » murmura le cocher. L'inconnu franchit le marchepied et s'assit à côté de la vieille femme. Le cocher toucha du bout de son fouet les chevaux jeunes et ardents, qui partirent ventre à terre, secouant rudement le carrosse sur les pavés anguleux et inégaux. Au bout de peu d'instants, la voiture roula plus mollement sur un terrain plat et uni. On était sorti de la ville et on courait à fond de train sur l'une des grandes routes qui se dirigent depuis Toulouse vers l'intérieur de la France. Pendant 3 quarts d'heure, l'allure des chevaux ne se ralentit pas un instant. Des tourbillons de poussière jaillissaient sous les roues et enveloppaient le carrosse dans des nuages de poussière opaque. Aucune parole ne s'échangeait entre l'inconnu et Madame Clodion. Le jeune homme s'absorbait sans doute dans une préoccupation profonde et comptait les minutes qui lui paraissaient longues comme des siècles. Quant à la vieille femme, il est hors de doute qu'elle supputait dans son esprit les bénéfices qui ne pouvaient manquer de résulter pour elle de l'expédition de cette nuit. Soudain, une brusque secousse vint arracher l'inconnu à sa rêverie et Madame Clodion à ses calculs. Puis, les chaos recommencèrent. Le carrosse venait de tourner à gauche. Il avait quitté la grande route pour se jeter dans un chemin de traverse, fort mal entretenu. Les roues tombaient d'ornière en ornière. L'essieu craquait et gémissait. Tout l'équipage, enfin, menaçait de se disloquer au grand effroi de Madame Clodion. Mais, sans doute, le cocher comprenait aussi bien que son maître combien il était urgent d'arriver sans retard, car il ne modérait point la marche impétueuse de son attelage écumant. Enfin, le carrosse s'arrêta. Il y avait juste 1 heure, minute pour minute, qu'on était sorti de Toulouse. « Sommes-nous arrivés ?» demanda Madame Clodion, qui commençait à se mourir d'épouvante. « À peu près. Du moins, nous allons quitter la voiture. »« Ah, c'est heureux. Il y a encore un peu de chemin à parcourir à pied, mais c'est l'affaire de 5 minutes. Je vous recommande de garder, à partir de ce moment, le plus profond silence. »«
Je n'ai guère envie de causer, » répliqua la vieille femme.
« C'est bien. » L'inconnu descendit le premier et posa Madame Clodion sur le sol, comme il l'avait posée dans la voiture. Ensuite, il prit sur les coussins de devant une épée dont il boucla le ceinturon autour de sa taille et une paire de petits pistolets qu'il assujettit dans ce ceinturon. Ceci fait, il passa sous le sien le bras de la vieille femme et il se remit à marcher avec elle, dans la direction d'une haute et vaste masse blanche qui, fortement éclairée par la lune, se dessinait sur la sombre verdure des grands arbres qui l'entouraient. Cette masse blanche était la façade du château de Roqueverde. C'était là qu'étaient attendus l'inconnu et Madame Clodion. Chapitre 24. Le château. La vieille et son guide aperçurent, éclairés par la lune et se détachant sur les masses d'une sombre verdure, la haute façade du château de Roqueverde. Ils firent quelques pas de plus et se trouvèrent longer une muraille de clôture que couronnaient des cimes de grands arbres. Ce mur entourait le parc. L'inconnu et Madame Clodion continuèrent pendant 2 ou 3 minutes encore leur marche silencieuse. Puis ils atteignirent une petite porte étroite et basse dont le seuil disparaissait entièrement sous des mousses épaisses et des végétations parasites. L'inconnu s'arrêta. Il tira de sa poche une clé d'acier poli qu'il introduisit dans la serrure de la petite porte. Cette dernière tourna tout aussitôt et sans le moindre bruit sur ses gonds. « Passez !» dit l'inconnu en poussant Madame Clodion devant lui. Il entra à son tour et referma soigneusement la porte. Tous deux se trouvaient alors dans l'intérieur d'un parc dont les magnificences auraient pu, sans désavantage, lutter avec les royales splendeurs des jardins de Versailles. Les clartés bleuâtres de la lune éclairaient d'une façon vague et chatoyante des perspectives infinies, baignées d'une vapeur transparente. Çà et là, de blanches statues apparaissaient sur leur socle de marbre, comme des fantômes immobiles. Quelques rayons, tombés du croissant de la chasseresse phoebée, mettaient des étincelles sur la gerbe ondoyante d'un jet d'eau, et l'on eût dit une pluie mouvante de petites étoiles capricieuses. Au moment où la porte venait de se refermer derrière les nocturnes visiteurs, on entendit retentir un aboiement lointain et furieux. Cet aboiement s'interrompit pendant 1 seconde, puis il retentit de nouveau, plus furieux, plus rapproché.
Madame Clodion se prit à trembler de tous ses membres et recommanda à Dieu, auquel elle ne croyait guère, sa vilaine âme, à laquelle elle ne croyait pas. Le jeune homme ne manifestait aucune frayeur. Seulement, il n'avançait plus, et il frappait du pied avec impatience. Les aboiements se rapprochaient toujours. « Nous sommes perdus !» murmurait Madame Clodion, dont les dents claquaient d'épouvante. Enfin, apparut celui qui causait toute cette terreur. C'était un énorme chien des Pyrénées. Il accourait en bondissant, les yeux sanglants, le poil hérissé. Madame Clodion tomba à genoux. Mais à peine le farouche animal eut-il reconnu le jeune homme que son allure changea aussitôt. De terrible et menaçante qu'elle était d'abord, elle devint sans transition humble et soumise. Il cessa d'aboyer, il se coucha à plat ventre et s'avança jusqu'auprès de l'inconnu en rampant, en remuant son énorme queue et en poussant de petits grognements de tendresse. « C'est bien, » murmura le jeune homme, « c'est bien, ma bonne bête. » Mais il n'était point nécessaire de faire autant de bruit tout à l'heure. Le chien leva sa grosse tête et lécha les mains de celui qui venait de lui parler ainsi. Madame Clodion se sentit complètement rassurée. Le jeune homme continua. « Maintenant, fidèle, allez coucher !» Et il fit un geste que le chien comprit sans doute, car il se releva aussitôt et s'éloigna du même côté par lequel il était venu. « Nous en voilà débarrassés, » dit alors le jeune homme à Madame Clodion. Mais il est possible que les aboiements de cette maudite bête aient donné l'éveil, et je crois prudent d'attendre quelques minutes avant de nous approcher du château. » La vieille femme fit de la tête un signe affirmatif. L'émotion qu'elle venait d'éprouver un instant auparavant lui avait momentanément enlevé l'usage de la parole. Son compagnon la fit entrer dans un taillis où il la suivit, et tous deux, l'oreille au guet, silencieux et immobiles, attendirent pendant 5 minutes. Aucun bruit ne se fit entendre. Tout resta calme dans le parc et aux alentours du château. « Allons, » dit alors l'inconnu, « allons vite. Et maintenant, plus que jamais, silence, silence !» Nos personnages se remirent en marche. Ils allaient doucement, retenant leur haleine, évitant de froisser les feuilles sèches, côtoyant le mur d'enceinte afin de rester dans l'ombre et de ne pas être trahis par les clartés révélatrices de la lune. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la façade du château. Cette construction grandiose et quasi princière étalait au regard tous les trésors de son architecture. Un large perron, à marches de pierre polie et à balustres de fer capricieusement ciselés, conduisait par une double rampe aux 3 portes cintrées du vestibule. De gigantesques cariatides supportaient sur leurs robustes épaules le balcon du premier étage. Autour de chacune des fenêtres s'enroulaient des ornements sculptés dans la pierre avec une délicatesse infinie et digne du ciseau de Jean Goujon. Des sirènes accouplées arc-boutaient leur corps fantastique pour former le cintre des mansardes qui faisait saillie sur un toit de briques à girouettes armoriées. Madame Clodion n'eut que le temps de jeter à toutes ces merveilles un coup d'œil rapide. Son guide l'entraînait déjà. Le jeune homme et la vieille femme tournèrent autour du château et arrivèrent à une issue si bien cachée dans la muraille qu'il fallait la connaître pour se douter qu'elle existât. Les panneaux grisâtres et vermiculés de la porte imitaient la pierre de taille et se confondaient avec elle. À l'aide d'une seconde clé, le jeune homme ouvrit cette porte. Mais quand Madame Clodion et lui eurent pénétré dans l'intérieur, il ne la referma qu'à demi, sans doute afin de ménager les moyens d'une retraite facile et prompte. Derrière cette porte, il y avait un couloir obscur. Au bout de ce couloir, se trouvait un escalier, étroit et rapide. En haut de cet escalier, le jeune homme appuya le doigt sur un ressort. Un panneau de boiserie glissa sur lui-même comme par enchantement, découvrant un espace assez large pour qu'une personne de grosseur moyenne y pût passer en s'y présentant de profil. La vieille et son compagnon se trouvaient alors dans un large corridor, ou plutôt dans une galerie faiblement éclairée par 2 lampes posées sur des supports, à chacune des extrémités de cette galerie. À droite et à gauche s'ouvraient 2 hautes et larges portes. Il y en avait 12 de chaque côté, en tout 24. Entre chacune de ces portes de grands portraits de famille, tous blasonnés et magnifiquement encadrés, remplissaient les panneaux. On distinguait vaguement dans la pénombre les sauvages figures des chevaliers bardés de fer, les visages solennels des procureurs généraux et des présidents à mortier, et les corsages aristocratiquement empesée, des aïeules, belles et laides, du marquis de Roqueverde, alors vivant. L'inconnu se tourna vers sa compagne. Il ne lui adressa pas un seul mot, mais il appuya un doigt sur ses lèvres, et sa physionomie, tandis qu'il faisait ce geste, avait une éloquence bien supérieure à toutes les recommandations du monde. En même temps, il retira l'un de ses pistolets du ceinturon de son épée, il l'arma en étouffant le bruit de la détente, et il marcha sur la pointe du pied, tenant à la main ce pistolet prêt à faire feu. L'épouvante, un instant dissipée de Madame Clodion, était revenue de plus belle et atteignit son paroxysme. Elle perdait à demi la tête, et cependant, par instinct, elle se conformait aux précautions qu'elle voyait prendre à son guide. Ce dernier s'avança jusqu'à l'extrémité de la galerie, du côté gauche. Il ouvrit l'un des battants d'une grande porte sculptée et dorée. Il prit Madame Clodion par le bras, il la fit entrer avec lui, il referma la porte et poussa un verrou intérieur. « Nous touchons au but, » lui dit-il alors à voix basse. « Jusqu'à présent, tout va bien. Attendez-moi là, je reviens à l'instant. »